sensibiliser, informer. Bienvenue à l'Académie. Le podcast que vous écoutez a été réalisé par le Mouvement des entreprises de France et réalisé à partir d'une session de sensibilisation. Bonne écoute.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire organisé par l'Académie du Mouvement des entreprises de France. Je rappelle que l'Académie est l'organisme de formation intégré au MEDEF qui a pour vocation d'accompagner les experts du MEDEF national dans la transmission des informations stratégiques auprès de l'ensemble de l'écosystème MEDEF, les chefs d'entreprise, nos élus, nos mandataires, nos présidents de MEDEF territoriaux, de fédérations professionnelles, et également les collaborateurs de ces organisations. Je laisse, sans plus attendre, la parole à Gérald Kenanian.
Merci Gauthier pour la prise de parole. Je tenais à vous remercier à tous d'être présents aujourd'hui et je tiens à remercier à l'avance toutes les personnes qui vont écouter ce webinaire par la suite parce qu'il sera transformé en podcast et il sera disponible sur la chaîne Spotify ainsi que sur notre site innoverenfrance.fr. Donc je m'appelle Gérald Kenanian, je suis directeur de mission innovation au sein du MEDEF et je travaille au sein du pôle numérique innovation. En effet, pour le MEDEF, l'innovation est un enjeu majeur pour les entreprises françaises, car il s'agit d'un facteur de compétitivité important et c'est aussi un enjeu de souveraineté pour la France. Donc c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a de nombreux dispositifs qui ont été mis en place par les puissances publiques afin de favoriser des initiatives d'innovation au sein des entreprises, aussi bien en France qu'en Europe. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, ça va être les dispositifs européens. J'en profite pour annoncer qu'il y aura prochainement deux autres webinaires, un avec BPI France qui va présenter les différents dispositifs de soutien à l'innovation et un autre avec le CEA Leti. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné de Jérôme Billet, directeur général de l'ASRC, et Jean-Christophe Lhomme, CEO de Valotech, qui est une ASRC, et je pense qu'on présentera ce qui est une ASRC par la suite, et qui va nous faire un retour d'expérience sur une demande d'obtention de financement européen. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, et on y répondra à la fin dans la session questions-réponses. Jérôme, Jean-Christophe, je vous donne la main.
Donc, Jérôme Billet, donc, je suis le délégué général de l'ASRC, c'est l'association des sociétés de recherche au contrat, qui est une association qui regroupe des sociétés de recherche au contrat, donc qui mène des travaux de recherche et développement technologique pour le compte de tiers. Pour le compte de tiers, ça veut dire aussi bien pour le compte de start-up, PME, ETI, grands groupes, et également pour organismes publics de recherche sur différentes filières. Ça peut être la MedTech comme Jean-Christophe, mais pas que. Ça peut être dans sur les sujets de mobilité, d'agroalimentaire, d'énergie, d'environnement, etc. Et j'ai également deux autres casquettes. Je suis délégué général de France Innovation, qui est une association qui a été créée à l'initiative de la SRC et qui regroupe plus de 700 entreprises innovantes. Et ma troisième casquette, je suis également point de contact national pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sur un dispositif spécifique d'Horizon Europe qui est EIC Accélérateur, on en touchera deux mots. Mais dans le cadre de mon intervention, on va traiter Horizon Europe dans son ensemble, puisque c'est, en fait, c'est un pool d'opportunités. Il faut vraiment le voir comme ça en tant qu'entreprise. Jean-Christophe, peut-être que tu veux dire un mot d'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet.
Oui, donc Jean-Christophe Lhomme, responsable de la société Valotech, qui est prestataire en recherche et développement principalement dans le domaine des dispositifs médicaux, mais aussi dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et on a participé, je le dirai après, à plusieurs projets européens, et on trouve que c'est globalement très positif.
Je vous rassure, on rentrera dans le détail de ces projets, de comment il a fait un peu les trucs et astuces. Alors, les projets européens, ça peut paraître très compliqué, hein, déjà parce que souvent, c'est en langue anglaise que ça se passe. Alors, c'est pas souvent, c'est tout le temps que ça se passe en langue anglaise. Ça, c'est un premier point, donc il ne faut pas être freiné par rapport à ça. Et puis l'anglais bruxellois, c'est pas l'anglais de Shakespeare, je dis de suite. Il y a des questions à se poser, qui sont des questions, celles que vous voyez à l'écran, qui sont discriminantes, qui sont volontairement discriminantes. Ça permet finalement d'aller assez vite sur quel instrument au sein d'Horizon Europe peut m'intéresser. Et on peut avoir d'ailleurs le même raisonnement avec une dimension régionale et nationale. C'est est-ce que j'ai envie de collaborer ou est-ce qu'au contraire, je cherche plutôt à avoir un projet en solo. Très majoritairement dans Horizon Europe, on le verra, c'est orienté vers des projets collaboratifs. Finalement, il y a quelques poches de financement qui sont orientées vers des financements individuels. Il y a également une autre question très discriminante, c'est quel est le niveau de TRL, donc le niveau de maturité technologique attendu en entrée de projet et également en sortie. On va le voir, les projets, classiquement, c'est peut-être des projets de 24 ou 36 mois. Donc, il y a cette notion de à quel niveau de TRL je rentre, enfin, le consortium rentre, puisque c'est des projets collaboratifs dans la majorité des cas, et quel niveau de TRL est attendu en sortie. Le type de financement, alors très majoritairement, c'est de la subvention, jusqu'à 70 voire 100% de taux de financement. C'est pas compliqué, vous ne trouvez pas l'équivalent au niveau national. taux de financement d'ailleurs qui ne sont pas conditionnés aux fonds propres, si on fait le parallèle avec le niveau national. Et puis, il y a une question toujours à se poser. Donc, il y a des financements qui sont alléchants. Néanmoins, il faut bien s'interroger sur si je participe à tel projet européen, est-ce que ça rentre bien dans ma stratégie? On parle bien d'alignement stratégique. Alors, là aussi, lorsqu'on parle de projet européen, on se dit oui, ça peut être long, ça peut être difficile, puis en plus, il y a un taux de succès qui est relativement faible. Alors oui, les taux de succès sont relativement faibles, et encore, ça dépend des différents types d'instruments. Ça peut varier énormément d'un instrument à l'autre. Moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que de toute manière, 100% des gagnants ont compté leur chance. Donc ça, c'est plutôt le taux de succès à retenir. Il y a des opportunités à saisir sur l'ensemble des piliers. Je présentais brièvement ensuite l'architecture du programme Horizon Europe. Mais il y a bien des opportunités en tant qu'entreprise à saisir dans tous les piliers, même le pilier 1 qui est plutôt sur la recherche amont, plutôt orienté vers le monde académique. Et Jean-Christophe a d'ailleurs un projet qui est issu du pilier 1 qui s'appelle les dispositifs Marie Curie. Il y a cette idée aussi, je peux être aussi bien dans une stratégie volontariste, c'est-à-dire j'ai une idée de projet, je vois une thématique qui m'intéresse, je suis prêt à prendre mon bâton de pèlerin pour former mon consortium et être capable d'y répondre. Ou est-ce une approche beaucoup plus opportuniste, voire les deux bien entendu, où mon objectif en tant qu'entreprise, c'est de me rendre visible auprès des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, qui ont a priori l'intention de monter des projets sur ce type de thématique. Il y a l'idée aussi de penser technologie et ou domaine d'application. Il y a différents programmes de travail qui existent, qui sont un peu dans les clusters. Ben là, il ne faut pas hésiter non plus à aller au-delà des frontières un peu naturelles. Si en gros, tiens, il y a un cluster qui s'appelle santé. Néanmoins, il y a des poches de financement qui ne sont pas inintéressantes sur des technologies appliquées à la santé, mais pas que, et qui sont dehors du programme de travail santé. Et puis, bien entendu, il peut y avoir un rôle, une posture qui peut varier d'un appel à projet. On peut être chef de file. On se positionne comme le coordinateur, on peut être partenaire du consortium, c'est-à-dire bénéficiaire de l'aide européenne, tout comme je peux aussi être sous-traitant d'un consortium qui a gagné un financement européen. Typiquement, donc, ce qu'on connaît le mieux, les sites de recherche au contrat, il n'est pas rare de voir une site de recherche au contrat qui va finalement être sous-traitante du consortium lui-même. Alors ça, c'est l'architecture du programme Horizon Europe. J'ai dû commencer par là parce que, en fait, le programme Horizon Europe, il a commencé en 2021, il se termine en 2027. Donc ce qu'on est en train de dire là, c'est encore d'actualité. Il peut y avoir des changements, mais c'est des changements relativement mineurs au cours de la programmation. C'est ça qui est assez intéressant par rapport à d'autres mécanismes, c'est que la dimension européenne avec les programmes communautaires, c'est qu'en règle générale, quand le programme démarre, on a une visibilité sur 7 ans, des grandes thématiques et de la grande architecture. Donc là, on le voit à l'écran, il y a le pilier 1. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est plutôt sur des appels à projets orientés académie. Néanmoins, dans les actions Marie Curie, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes du tout pour les entreprises, et Jean-Christophe prendra en toucher deux mots lors de sa partie. Donc, pilier 1, naturellement, c'est plutôt le monde académique, mais encore une fois, il y a des choses à aller chercher. Pilier 2, ça concentre l'essentiel du budget. Horizon Europe, c'est plus de 90 milliards d'euros sur la programmation 2021-2027. Alors, je vous rassure, on arrive à fin 2024, il reste encore de l'argent, hein, puisqu'on est plutôt sur une logique de dépenses annuelles. Donc, il y a sur le pilier 2, ce qu'on voit, les pôles. C'est un faux nom, c'est une fausse traduction pour cluster. Dans la version originale, c'était les clusters. Donc, ce sont des thématiques. Donc, on le voit, on a santé, on a culture, créativité, société inclusive, sécurité civile, le numérique, l'industrie spatiale, le climat, énergie, mobilité, ou encore alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Et sur le principe du pilier 2, donc c'est uniquement des projets collaboratifs, c'est que la Commission européenne va éditer ce qu'on appelle des programmes de travail. Et au sein des programmes de travail, vous allez trouver ce qu'on appelle les topics. Les topics sont les appels à projets. Et en fait, chaque appel à projet, vous allez dire, bah tiens, typiquement, je cherche, moi, Commission européenne, à financer un consortium qui sera capable de répondre à tel et tel enjeu avec telle ou telle technologie. Mais parfois, la technologie n'est pas du tout indiquée. C'est au cas par cas, la rédaction d'un topic peut varier d'un topic à un autre. Le topic, c'est les appels à projet. Et dans ces appels à projet sont indiqués, en général, le budget, la durée du projet est indiquée aussi la notion de TRL en entrée et en sortie, mais pas toujours. Et puis, il y a le pilier 3, qu'on appelle l'Europe innovante, et je vais parler plus particulièrement du Conseil européen de l'innovation. Ceux qui sont un peu familiers, on appelle ça l'EIC, c'est European Innovation Council. On va trouver différents instruments, j'en parlerai que de trois, l'EIC Pathfinder et l'EIC Transition, également l'EIC Accélérateur. Et c'est dans l'EIC Accélérateur qu'on retrouve des poches de financement pour dédier à des instruments monobénéficiaires orientés start-up et PME, plutôt orientés deep tech. Alors, les instruments de financement du pilier 2. Donc, il y a ce qu'on appelle les RIA, Research Innovation Action. Jean-Christophe a d'ailleurs un RIA, voire deux RIA, et pour nous en parler. Il y a également ce qu'on appelle les projets IA. Alors, rien à voir avec l'intelligence artificielle, c'est un acronyme pour Action d'innovation. Et puis, je vais passer assez rapidement, il y a les CSA, les actions de coordination et de support, et les cofonds. Là, j'en ai un exemple, mais c'est ce qu'on retrouve sur quasiment l'ensemble des clusters du pilier 2, RIA, donc action d'innovation et de recherche. Typiquement, ça c'est plutôt, alors c'est pas typiquement, c'est plutôt un exemple d'un topic. Ils vont vous dire, bah, vous allez commencer le projet à TRL3, et l'idée, à l'issue des 36 ou 48 mois, c'est d'avoir atteint le TRL5. On est bien sur des projets consortiums puisque c'est multibénéficiaire. Et le niveau de financement, puisque c'est des projets relativement risqués par nature, ça peut aller jusqu'à 100%. Sur les projets IA, action d'innovation, là encore, encore une fois, c'est un exemple, TRL5 à 7, donc on le voit bien, c'est les niveaux de maturité technologique qui sont plus élevés, donc plus orientés à l'innovation. Dans le pilier 2, ça sera du multibénéficiaire. Et là, on est sur 100% quand ce n'est pas une entreprise, et plutôt 70% pour des entreprises, encore une fois, non conditionnées aux fonds propres, avec des durées de 36 à 48 mois. Point important, c'est que ce qu'on appelle un projet collaboratif dans le cadre de Horizon Europe, c'est au minimum trois entités légales indépendantes dans trois États membres ou associées. Donc, pour le dire autrement, pour qu'un consortium soit à minima éligible, c'est une condition d'éligibilité. Vous ne pouvez pas avoir deux entités françaises et une entité espagnole. Ça ne marche pas. Vous pouvez avoir un espagnol, une entité française, une entité allemande. Donc, vous pouvez positionner avec trois, un minimum de trois. En règle générale, ces exemples qu'on retrouve facilement sur Internet via la base de données Cordis, on est quand même sur des consortiums qui sont un peu plus importants, des consortiums qui sont un peu plus importants. Là, j'ai mis deux exemples. Alors, je peux en parler assez facilement puisque ce sont des membres de la SRC d'ailleurs qui sont concernés. Un exemple de projet RIA, c'est un projet de 4,2 millions d'euros, c'est le projet Alter, avec l'idée de démontrer, pardon, la faisabilité industrielle d'un système de lancement à faible coût de petits satellites. Là, ce sont sept partenaires, dont la société de recherche contrat, Vertin Technologies. Autre exemple, là, ce n'est pas un RIA, c'est un IA, donc action d'innovation, 10 millions d'euros. Projet Urban Rec, améliorer la valorisation des déchets urbains de gros volume. Et là, on voit bien, c'est une machinerie qui est beaucoup plus importante puisqu'il y a 21 partenaires. Donc, il ne faut pas se dire, parce que c'est du RIA, il y a plus de monde autour de la table, la preuve que non, ça c'est vraiment lié au topic et à ce que veulent faire les membres du consortium.
En fait, juste pour te poser une petite question
Oui.
sur les États membres, est-ce qu'il y a par exemple les Anglais ou
Non,
pas? Non.
non, non, mais par contre, il peut y avoir par exemple les Suisses sur le pilier 2, les candidatures suisses sont acceptées, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, c'est en cours de programme, il y a eu du changement.
Et est-ce que je peux avoir un consortium avec quatre personnes, enfin quatre entités, dont trois pays partenaires de l'Union européenne et un quatrième qui est essentiel pour mon programme de R&D?
Mais ce ne sera pas financé.
Il ne sera pas financé, mais il peut participer au programme.
Exactement.
Ok.
C'est juste qu'il n'y a pas de contractualisation à Bruxelles, puisqu'il n'y a pas d'aide qui sera versée. Mais c'est tout à fait possible, bien sûr. L'évaluation des projets. Alors, les trois critères principaux qu'on voit ici, excellence, impact, qualité et efficience de la mise en œuvre, dites-vous que c'est exactement les mêmes critères, quel que soit le pilier. C'est-à-dire que si je vais sur le pilier 3, sur l'accélérateur, par exemple, ce sont les mêmes critères. Par contre, il y a un peu de potentiomètre sur chacun des critères avec des ordres d'importance. Là, je parle bien du pilier 2. On peut avoir des processus d'évaluation qui sont une ou deux étapes. Alors, certains disent que c'est mieux une ou deux, peu importe, mais ce n'est pas vous qui allez le fixer, c'est l'appel à projet. Une étape, c'est je dois faire mon gros dossier, qui est grosso modo 45 pages, où il faut que j'ai une vision très claire de ce que je vais faire. C'est vraiment un business plan du projet, mais c'est même le business plan quasiment de l'après-projet. C'est aussi être capable de dire à ce stade-là, très vite, qui va venir avec quoi en termes de propriété intellectuelle à l'entrée du projet et qui va sortir avec quoi à la sortie du projet. Alors bien entendu, dites-vous, on est sur des projets très technologiques, hein, ça vous l'avez compris, mais il n'y a pas forcément de la propriété intellectuelle qui va être générée tout le temps. Hein, donc, faire attention par rapport à ça. Le temps dévolu, c'est à peu près 5 mois. Donc il y a la date de publication de l'appel à projet. Dans les faits, quand on est à peu près dans les réseaux, on connaît l'appel à projet avant même sa publication. Donc ça, c'est un élément intéressant aussi de retour d'expérience, d'être capable de grenouiller dans les réseaux pour avoir accès à ces appels à projets avant leur publication, et capable de se préparer au plus tôt, et bien entendu de se rendre visible, si j'ai une stratégie très opportuniste, à savoir de me rendre visible auprès de gens qui ont l'intention de monter ce type de consortium. Donc 5 mois maximum, et à peu près entre le moment où j'étais annoncé comme lauréat, le consortium est annoncé comme lauréat, et le moment où j'ai de la contractualisation, il faut compter 3 mois. Une fois que le contrat est établi, par contre, ça va très vite en termes de versement. Quand tout va bien, ça va très vite, c'est-à-dire qu'en 1 mois et demi, je peux déjà avoir un préfinancement qui était même assez généreux d'ailleurs, puisque grosso modo, ce préfinancement, il est capable de représenter 50% du montant global du projet. Et c'est une contractualisation qui se fait entité par entité, partenaire par partenaire. La nouveauté qui est intégrée dans Horizon Europe par rapport au programme précédent qui s'appelait Horizon 2020, c'est qu'il y a une réduction de la taille des propositions, donc on est sur 45 pages maximum. Et la possibilité de réagir par rapport à des remarques qui auraient pu être réalisées par des évaluateurs. Alors, les différents programmes de travail, c'est un lien utile, c'est sur le site miroir de celui de la Commission européenne. Alors, c'est un site qui est édité par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, où vous allez retrouver l'ensemble des programmes de travail ainsi que l'ensemble des appels à projets qui sont en cours. S'il y a un doute, je vous ai également remis le lien vers le portail du participant Horizon Europe, donc celui qui est géré directement par la Commission européenne. Bien entendu, toutes les soumissions se font en ligne via ce portail. J'évoquais hein, les actions Marie Curie, c'est le pilier 1. C'est plutôt orienté sur la mobilité des chercheurs. Christophe pourra peut-être donner son exemple tout à l'heure. Donc on est bien orienté mobilité des chercheurs. Je bascule sur le pilier 3, écosystème européen d'innovation. Il y a également des poches de financement, notamment au travers d'un appel à projet, enfin d'un programme qui s'appelle Eurostars, qui s'appelle maintenant INOF-LSMIS, mais on est resté un peu bloqué sur le terme Eurostars qui est en vigueur depuis pas mal de temps maintenant. Différent par rapport à ce qui a pu être présenté dans le pilier 2. Là, on est sur des appels à projets qui sont bottom-up, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de thématique. On a plutôt des orientations en termes de type de projet qui sont souhaités et non pas des thématiques de projet. Là, ce qui change aussi, c'est qu'on est toujours sur une évaluation européenne. Par contre, le financement va provenir d'opérateurs au niveau national, pardon. Ce qui veut dire que, ben, en France, c'est BPI France qui opère ce dispositif-là.
Donc, il faut que je contacte
BPI France.
Alors, c'est toujours privilégié de contacter l'opérateur, même si ce n'est pas BPI qui veut évaluer les projets. Mais c'est toujours bien quand même de s'assurer qu'a priori on a bien compris le mécanisme Eurostars et que ça fait sens de candidater Eurostars. Eurostars, on est sur un financement qui est moins généreux, ce n'est pas le 70% que j'ai annoncé précédemment, on est sur un financement à 40%. Et ce taux de financement peut varier d'ailleurs d'un partenaire à un autre. Je peux être partenaire allemand et être moins bien financé que moi, partenaire français ou inversement. On est sur des projets max de 36 mois. On parle bien de recherche et développement. On parle bien de projets collaboratifs, toutes thématiques, ce que j'évoquais précédemment. Et donc, l'idée, c'est bien de commercialiser quelque chose à l'issue de ce projet. En règle générale, la condition, c'est de dire je suis capable de commercialiser 24 mois après la fin du projet. Donc, on est bien sur 36 plus 24 mois, pour donner une échelle de temps. Et puis, on est sur des consortiums qui incluent forcément la participation d'au moins deux partenaires venant de deux pays membres d'Eurostars. À noter que les membres d'Eurostars ne sont forcément les pays européens, en règle générale, mais ça peut être des pays comme le Chili, etc. Et ça varie d'un appel à projet à un autre. Et le lead doit être assuré par une PME Eurostars. Alors, une PME Eurostars, c'est une PME qui a des efforts de recherche un peu version les mêmes métriques que JEI, sauf qu'il n'y a pas de question d'âge. Mais il y a bien la démonstration que je suis une PME avec une très forte intensité pardon, en termes de R&D. Et là où les PME, entre guillemets, taguées Eurostars, doivent supporter au minimum 50% des coûts du projet. Les projets sont à soumettre en ligne, ils ne se font pas sur le même lien précédent, ils se font sur un lien dédié qui est Eurostars-eureka.eu. Institut européen d'innovation et de technologie, retenez pas ce terme-là, ce n'est pas plus intéressant. Il y a ce qu'on appelle des KIC. Alors les KIC, je vais en parler très brièvement parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour la prochaine programmation, mais l'idée des KIC, c'est des structures européennes qui sont indépendantes, qui sont intégrées au pilier 3 et qui reçoivent de l'argent pour partie de la Commission européenne. Et donc il y a des KIC, ce qu'on appelle les EIT, qui sont thématiques. Et les EIT ont une capacité là aussi à venir financer pas des projets de R&D, mais plutôt des projets d'innovation, donc ou également de la partie formation. Donc il y a des EIT qui ne sont pas inintéressantes. Enfin, toutes le sont, bien entendu, mais il y a des EIT sur lesquels on a des bons retours d'expérience, notamment lorsque c'est lauréat EIT candidat à l'EIC Accélérateur. Et justement, j'arrive sur le Conseil européen d'innovation, donc ce fameux European Innovation Council, l'EIC. Donc c'est 10 milliards d'euros hein, sur les 95 milliards. C'est beaucoup et c'est peu à la fois. Il y a déjà une version pilote dans le cadre du programme précédent, et donc, riche de cette expérience-là, la Commission européenne a modifié, mais légèrement, cet instrument. Il y a une logique de continuum de la recherche early stage vers la création de valeur et de richesse, donc vers la commercialisation. Et la Commission a souhaité également un équilibre entre top-down et bottom-up, c'est-à-dire entre des appels à projets, on va dire, dirigés, et des appels à projets qui sont totalement liés. Et donc, comme indiqué précédemment, il y a trois outils principaux, le pathfinder, ce qu'on appelle l'éclaireur, transition et l'accélérateur. Je passe parce que ça rentre dans un détail un peu technique pour le vice qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors, méfiance par rapport à ce tableau-là, d'autant plus méfiance que j'en ai la paternité, donc méfiance quand même, c'est qu'en fait, ça donne le sentiment que c'est un continuum. Oui, c'est un continuum qui est purement intellectuel, mais on peut très bien candidater à l'EIC Accélérateur, complètement à droite, sans avoir été lauréat, pathfinder et transition. Et d'ailleurs, la très 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 grande majorité, c'est-à-dire 99% des candidats et lauréats à l'Accélérateur, ne sont jamais passés par pathfinder ou transition. Pathfinder, c'est des appels à projets très amont, on parle de TRL 1, 2 jusqu'à TRL 4. L'éclaireur, c'est pas pour rien. Donc, mono ou multi-bénéficiaire, une date de relève par an, ce qu'on appelle les dates de cut-off, et des subventions qui peuvent aller jusqu'à 100% sur des projets de 3 millions d'euros, 4 millions, si je m'inscris dans un challenge, donc un appel à projet dirigé. Transition, là, par contre, on ne va pas sortir nulle part, c'est qu'il faut avoir été lauréat. Enfin, en tout cas, il faut que je candidate avec une technologie ou la connaissance qui était issue de projets qui ont été financés antérieurement par la Commission européenne, soit des projets Pathfinder, soit des projets Pathfinder pilote, soit des projets encore intérieurs sur H20. Donc, il y a une liste de techno issues de certains types de projets. Subvention à 100% et qui peut jusqu'à 2,5 millions d'euros.
Cette liste, elle est publique?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que dans le programme de travail, là, on voit ici, il y a les comptes Pathfinder, Pathfinder pilote, etc. Vous allez retrouver la même liste. Je ne suis pas exprimé. Ce n'est pas une liste de technologie. C'est une liste de technologies qui ont été financées à un moment donné par ces dispositifs-là. Donc, ce qui est listé, c'est la liste de dispositifs qui ont permis de financer les technos et non pas les technos.
Donc, moi, je peux être une entreprise bénéficier de cette technologie qui a été financée par l'Union européenne. Et je n'ai pas la paternité et je peux continuer à développer.
Par contre, s'il n'y a pas la paternité, il faut que le papa ou la maman signe quelque chose avec un transfert de paternité.
Ou je travaille avec elle.
Tout à fait. Donc, on est là sur transition des TRL 4 à 5-6. Et sur l'accélérateur, c'est un petit scoop, mais a priori, on sera plutôt sur TRL 6 à partir de 2025. Donc, aujourd'hui, c'est TRL, à partir de TRL 5. C'est que je peux candidater à minima TRL 5, mais on voit aussi des candidatures à TRL 7, par exemple. Ça a bien vocation à financer le scale-up de start-up, PME, deep tech à l'échelle européenne, avec une combinaison, c'est-à-dire que par définition, le dispositif est construit autour de cette notion de blended, un mix entre la subvention, qui peut aller jusqu'à 2,5 millions d'euros, et une intervention en capital jusqu'à 15 millions d'euros. Et particularité, c'est que c'est jusqu'à 15 millions d'euros via un fonds EIC, mais le fonds EIC ne peut pas être le du tour de table en question. Donc, il faudra forcément trouver un investisseur qui est capable d'assumer le lead du tour de table sur lequel le fonds EIC est capable d'intervenir.
Et là, BPI peut m'aider à trouver des fonds?
Oui, BPI, oui. Alors, via leur plateforme Roquity, par exemple, ou même eux-mêmes peuvent être des investisseurs, puisque BPI fait partie de la liste des investisseurs invités.
Il ne faut pas forcément que ce soit un investisseur privé, du coup.
Alors, il faut que ce soit...
Il faut les deux. Il faudra que BPI, dans un tour de table, potentiellement...
Il faudra qu'il y ait un investisseur qui soit capable d'assurer la valo. En fait, si le fonds EIC ne veut pas intervenir en tant que majoritaire, c'est qu'il ne veut pas assurer le rôle de « j'assure la valo ». Et BPI peut dans cette situation-là.
Oui.
Donc ça ne pas résoudre totalement le problème. Enfin, ça peut, mais n'est pas totalement. Là, on est, point, comme c'est un dispositif qui est en plusieurs étapes sur l'accélérateur, c'est en trois étapes, enfin quatre d'ailleurs. Une étape qu'on appelle la short application, c'est 12 pages, c'est un pitch deck, c'est une vidéo. Là, il y a quatre évaluateurs qui se penchent sur le dossier et il faut avoir trois go sur quatre pour avoir le droit de candidater à la full application. La short application, je peux candidater quand je veux. C'est au fil de l'eau. On compte à peu près 6 à 7 semaines d'évaluation. En 2025, on devrait passer à un jour de relève par mois. Et en full application, il y a deux dates de relève, donc deux dates de cut-off par an. Là, c'est un dossier qui est un peu plus copieux, c'est 50 pages, c'est un dossier qui est un business plan, mais avec un canevas qui est un peu spécifique à la Commission européenne. Et là, c'est trois évaluateurs, il faut impérativement trois go sur trois. Et lorsque j'ai franchi cette deuxième étape...
Les dates, c'est toujours les mêmes?
Oui, on est sur mars et octobre, a priori. Mais le programme de travail n'a pas été publié encore pour 2025, mais okay. On est sur mars et octobre. Et troisième étape, si jamais j'ai franchi les deux étapes, bien entendu, je suis attendu en interview, en présentiel, à Bruxelles. Face à un jury, puis à l'issue de ça, je suis déclaré lauréat ou pas. Attention, c'est un dispositif qui est forcément très séduisant. Néanmoins, il y a possibilité de candidater uniquement trois fois à ce dispositif-là. Sinon, c'est rideau, je n'ai plus le droit de candidater jusqu'à la fin d'Horizon Europe, donc jusqu'à 2027.
Et par rapport au sujet de la levée de fonds, je peux candidater sans être en phase de levée de fonds. Et on me dit, je suis lauréat, et dans ce cas-là, j'essaie d'avoir ma levée de fonds, puis je pourrais avoir un effet de levier, parce qu'on me dira, l'Europe... Exactement. Mais je ne suis pas obligé d'être déjà dans un tour de table.
Pas du tout. Okay. On a eu plusieurs scénarios. Hein. Le scénario, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui candidatent, qui sont déjà en cours, ils ont déjà un investisseur, a priori, qui est prêt à faire le lead, mais pas tout seul. Et puis d'autres où, au contraire, ils vont partir du principe que, grâce à la subvention, on va atteindre un certain niveau de maturité, un vrai jalon. Ça peut être le marquage dans la tech.
Oui, ça va se faire en deux fois, la subvention et après la levée.
Donc, c'est intimement lié, mais c'est deux contrats séparés. Okay. Et en général, il y a un préfinancement sur la grant qui se fait avant même due diligence sur la partie equity. Encore une fois, c'est très start-up et PME. Hein. Une ETI peut candidater sur certaines conditions, mais uniquement sur la partie equity. Alors, tout ce que j'ai présenté, le pilier 2, n'importe quel type d'entreprise, n'importe quelle taille d'entreprise a les mêmes conditions de financement et les mêmes chances de succès quelque part finalement. Que ce soit une PME, une start-up ou un grand groupe. Il existe en parallèle, mais je ne vais pas trop non plus Déjà, ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. C'est ce qu'on appelle le cascade funding, c'est-à-dire qu'il y a certains consortiums européens qui reçoivent de l'argent de la part de la Commission européenne et qui vont eux-mêmes lancer des appels à projets. C'est vraiment des appels à projets en cascade. Par contre, on est sur des tout petits tickets, ça peut être des tickets de 50 000 euros forfaitaires, voilà, qui permettent de mettre le pied à l'étrier sur certaines thématiques. Et les liens de contact utiles, bah, vous avez trois adresses mail. Si jamais il y en a une qui ne fonctionne pas, vous avez le backup des deux autres. C'est tout pour cette présentation un peu générique d'Horizon Europe. Je laisse la parole à Jean-Christophe.
Je vais te donner quelques éléments, mais après, je propose plutôt de répondre à des questions et de pouvoir vous donner un retour d'expérience si c'est possible. Que faire pour rentrer sur un projet européen? Donc, comme l'a dit Jérôme, il y a des sites de l'Europe et c'est très riche parce qu'il y a énormément d'appels à projets. Et les appels à projets, on va les retrouver avec une description assez courte, mais après, avec un détail quand même assez fin de ce qui est demandé par l'Europe. Et je dirais que le premier défaut pour aller répondre à un dossier européen, c'est d'essayer de faire rentrer des ronds dans des carrés ou l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment le projet qu'on peut proposer réponde à l'appel à projet. Et ne pas essayer de dire ah, ce que je propose, c'est un peu différent, mais ça peut peut-être passer, etc. Je dirais que c'est tellement compétitif qu'il y aura forcément des projets qui répondront correctement à l'appel. Et donc, le premier match, entre guillemets, c'est de faire correspondre à un appel à projet, un projet qui vous correspond et qui fait partie de votre stratégie et sur lesquels il y a une demande de l'Europe. Alors après, il y a des appels qui sont blancs où on peut proposer des projets libres. Mais si on est sur un appel thématique, il faut effectivement, je dirais, répondre à la question. Après, ce sont, sauf sur les EIC qui ont été présentés, on est quand même sur des projets où il faut être en consortium et avec des contraintes assez fortes sur la composition du consortium. Donc ça ne peut pas être, dans la plupart des cas, deux labos de recherche français plus deux entreprises françaises. Et donc, il faut pouvoir avoir des partenaires au niveau européen qui permettent de construire ces consortiums. Donc là-dessus, un des points d'entrée, bah, ça peut être au niveau franco-français, en tout cas, c'est les pôles de compétitivité. Donc avec des réunions qui permettent aux gens de se rencontrer et de se dire, bah, tiens, on travaille sur cette thématique et on pense qu'il y a quelque chose à faire. Et d'essayer déjà de trouver des partenaires au niveau français, mais bien sûr aussi des partenaires au niveau européen. Là, il y a des choses dont on en parlait avant le webinaire, pas forcément très efficaces au niveau européen, où on peut postuler pour son entreprise, mais ce n'est pas souvent sur ce site que les choses se font. Et donc, il faut avoir la volonté potentiellement aussi de participer à des réunions, soit en webinaire, ou quoi, soit en visioconférence, soit en réel, avec une bonne partie de ces réunions qui sont souvent à Bruxelles, mais ça peut être ailleurs. Et là, souvent sur des thématiques données. Par exemple, il y a tout un groupe d'appels à projets et il y a ce qu'ils appellent des matchmaking. On va rencontrer d'autres entreprises qui travaillent dans d'autres laboratoires, qui travaillent dans des domaines proches et qui ont des velléités de répondre à tel ou tel projet. Et donc là, on peut trouver des...
Les pôles de compétitivité, du coup, ils peuvent. Est-ce qu'ils t'ont aidé, par exemple, pour trouver des partenaires?
Alors, ils peuvent aider à trouver des partenaires si on les connaît, ces pôles, et qu'on leur pose des questions. Ce n'est pas forcément leur rôle d'aller faire du matchmaking au niveau européen. Ils le font au niveau, je dirais, franco-français sur les appels à projets français. Mais si nous, on parle de notre expérience propre pour Valotech, les premiers projets sur lesquels on est rentré, c'est parce qu'on avait une ETI qui travaillait sur des domaines proches des nôtres. Française et qui elle-même était déjà plus impliquée du côté européen. Donc là, je dirais qu'en tout cas pour nous, ça a été le bon scénario parce qu'on n'avait pas de compétences particulières pour rentrer sur ces projets européens. Et c'est ce parrainage, je dirais, de cette structure qui nous a emmenés sur deux projets européens. Donc eux avaient des
Qui eux
connaissances.
avaient des connaissances
Voilà.
d'acteurs étrangers.
Et donc, comme souvent, le plus dur, c'est de. C'est la
L'initiation.
première fois. On arrive sur ces projets-là et il y a, je pense sur la plupart, quasiment, je pense sur tous les projets, il y a des réunions de consortium, en tout cas sur les projets qui sont en consortium, et donc Si on a une âme de voyageur, tant mieux. Mais on va tourner, je dirais, un peu sur les différents pays qui sont membres du consortium. Et déjà, c'est une bonne chose pour rencontrer d'autres structures, en plus dans un cadre projet et souvent un cadre convivial. Et donc, les gens disent, ah, tiens, nous, on bosse là-dessus. Ah, ben, nous, on bosse là-dessus. Eh ben, ça serait assez complémentaire. Et donc, on rencontre aussi des gens sur les projets qui vont être aussi vos futurs partenaires pour des futurs appels à projets. Donc, c'est aléatoire puisque on ne sait pas quel projet, quel consortium va être le bon et quel projet vont être choisis. Mais 100% des gens.
Il y a un listing des entreprises qui ont été lauréates ou officielles ou pas?
Alors ça, c'est totalement public. C'est-à-dire qu'en fait, le financement européen est totalement public. C'est-à-dire que vous allez sur Cordis, CORDIS, cherchez par Google. C'est quand même mieux que le moteur de recherche de Cordis d'ailleurs. Et donc, vous tapez les thématiques qui vont vous intéresser. Vous allez avoir un listing des projets avec des acronymes parfois un peu barbares. Mais derrière ces acronymes, ce qu'on se cache un consortium. Et derrière ce consortium, il y a forcément des partenaires. Si demain, c'est pas une information publique, hein, vous tapez Safran, Valotech, pour citer deux entreprises à peu près de la même taille, vous allez avoir tous les projets dans lesquels Valotech ont été impliqués, et également pour Safran. Voilà. Donc, c'est des informations qui sont assez intéressantes.
Ça peut donner des idées en disant ah bah tiens, je vois que telle entité a travaillé sur tel type de projet, je peux les contacter pour voir s'ils vont travailler avec moi.
En fait, il faut bien se dire que les. Alors, ça ne veut pas dire que les projets européens, c'est un cercle uniquement d'initiés, puisqu'on est avant d'être initié, il a bien fallu que je sois débutant. Néanmoins, on voit bien, il y a des gens qui, quand ils ont bien compris la mécanique européenne, ils partent parce qu'ils y trouvent un intérêt, parce que c'est des consortiums qui sont capables de on ne l'a pas dit, mais on travaille sur de la techno, hein, donc la techno, il y a des verrous technologiques qui sont sautés par ces projets européens. Et derrière, c'est des choses à valoriser. Et donc, ils trouvent un intérêt directement. Il n'y a pas qu'une question d'argent. Et donc, c'est pour dire que finalement, je participe à un projet européen. C'est le premier, c'est le plus dur. Ça va embrayer. Jean-Christophe l'a très bien dit, c'est que je vais rencontrer d'autres partenaires potentiels. Je vais construire comme ça un peu une mécanique qui n'est pas forcément rodée pour arriver parfois à un stade où, qui est un stade plutôt confortable. Je suis capable de sélectionner les consortiums dans lesquels je vais m'impliquer. Ça, c'est la meilleure des situations, bien entendu. Et les informations sont publiques, ce qui veut dire que, on le voit bien, c'est souvent, y a certaines thématiques, les instituts Fraunhofer sont très forts sur telle et telle thématique. On voit bien qu'il y a peut-être plus de chances d'être dans un consortium qui va être gagnant si j'embarque tel et tel partenaire.
Et d'ailleurs, une question que j'ai déjà eue d'autres entreprises, c'est est-ce qu'il y a des limitations de cumul entre des aides françaises et des aides européennes? Est-ce que si j'ai une aide européenne, j'aurais plus d'aide française? Est-ce que si j'ai des aides françaises, j'aurais pas d'européenne?
Sur un même projet, on ne peut pas demander deux fois du financement.
Oui, sur un même projet, mais par contre, pour une entreprise au global, il n'y a pas
Il peut y avoir des contraintes, comme c'était évoqué, je dirais côté, par exemple, franco-français, sur les fonds propres de la structure. Pour pouvoir libérer tel montant d'aide, il faut tel montant de fonds propres. Comme l'a évoqué Jérôme, ce n'est pas le cas au niveau européen. Ce qui peut être extrêmement intéressant pour des startups ou des petites structures, c'est-à-dire qu'elles peuvent gagner potentiellement un gros projet qui va les aider à grandir sans qu'elles, côté franco-français, elles n'auraient pas les fonds propres nécessaires pour gagner le projet.
Oui, donc en fait, ils ne regardent pas en se disant il n'y a pas d'histoire d'incitativité de l'aide, elle a déjà été aidée par la France, donc je ne vais pas l'aider. Ou...
On préfère donner à ceux qui...
On perd de la qualité des bons projets.
Oui, et puis en fait, ce qu'a dit Jean-Christophe, c'est en vrai, hein, on ne pouvait pas avoir deux aides sur la même assiette de dépenses. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle projet. Si projet, ça veut dire des assiettes de dépenses sur une thématique donnée, sur des types d'actions du mois 1 au mois 24 de telle année, non, par contre, le même projet, le projet, il a une vie en termes de TRL.
C'est juste que je ne peux pas payer le même salaire la même année par ce dispositif.
En fait, vous ne pouvez pas faire plus financer deux fois la même heure.
Oui,
c'est ça. Je peux le dire autrement. Et ce qui est totalement normal. Par contre, bien entendu, on le voit bien, c'est le UC Accelerator. On a de nombreux, à peu près, je crois, 50% des lauréats UC Accelerator qui ont donné des lauréats d'ILAB. Okay. Donc on voit bien qu'un continuum, il peut y avoir un continuum des fois inversé, on peut avoir des lauréats EIC Accelerator qui finissent par avoir un autre projet qui est lauréat INEV. Mais on voit bien qu'il y a quand même une notion de séquençage. Quoi. C'est vraiment la continuité en termes de continuum, même si des fois l'histoire est un peu différente. Mais...
Et alors il y a beaucoup d'appels qui sont différents, je dirais, au-delà du sujet technique qu'on souhaite aborder ou du sujet de recherche, et aussi les types de financement qui sont plus ou moins adaptés à des tailles d'entreprise et de maturité d'entreprise.
On nous pose une petite question de Eve Ribou. Est-ce qu'il faut demander une sorte de validation à une autorité française pour déposer un dossier?
Non, heureusement que non.
Alors, bah, tout à l'heure, on parlait un peu de BPI, par exemple, de dire est-ce qu'il valait mieux passer par BPI pour demander une aide européenne ou.
Non, les compteurs sont totalement mis à réseau. C'est à zéro, pardon, c'est un guichet qui est à part entière. Je dépose à Bruxelles, je dépose à Bruxelles, à la Commission européenne. Après, bien entendu, tout ce qui est fait sous d'indice, c'est intéressant par rapport à une candidature. Valotech, ce recherche contrat, je suis reconnu par l'État, ça a de l'impact. Je suis Laura D-Lab ou Inno, ça a de l'impact. Donc on ne peut pas mettre sous silence, il ne faut surtout pas les soutiens limites qu'on a eu au niveau national.
Oui, il faut toujours le mettre en avant, mais il n'y a pas besoin d'un tampon.
Absolument pas, il n'y a pas de tampon.
Non.
Et il ne faut pas qu'il y ait de tampon neige.
Il peut y avoir des financements mixtes, où là, il pourrait y avoir des codécisions côté à la fois français et à la fois côté européen, et avec des financements qui proviendraient de structures à la fois européennes et françaises. Où là, effectivement, ben
Et dans ce cas-là, normal, il faut avoir.
mais on a un exemple, on peut gagner un projet européen et ne pas gagner la partie française. Ce qui est assez étonnant, puisque la partie européenne est souvent plus sélective que la partie
Oui,
française.
statistiquement, on est d'abord aidé par la France, enfin, on a plus de chances d'être aidé par la France. Ok. Est-ce que tu as d'autres des tips un peu à nous donner par rapport à tes projets? Peut-être nous donner un exemple de projet qui a été financé?
Je dirais sur les tips, je dirais c'est les mêmes conseils que dans la vie de l'entreprise. Si on se bouge, si on est volontaire, si on s'implique dans la construction d'un dossier et après, si on gagne, on s'implique dans la réalisation du projet pour en faire un succès. Bien évidemment, on a plus de chances d'être sollicité sur d'autres projets pour participer et des structures qui se mettraient, ça existe, qui se mettraient en retrait à la fois dans la phase de construction pour aller à l'économie, se dire bon, bah, si on gagne, tant mieux, et si on ne gagne pas, bah, tant pis parce qu'on ira de toute façon pas passer trop de temps. Bah, ça laisse des traces, et pareil dans la réalisation. Si on n'est jamais moteur, si on ne veut prendre aucune responsabilité sur le projet, si on ne fait pas pour que les choses avancent, on a peu de chances d'être sollicité par la suite pour participer à d'autres projets.
Est-ce que tu peux nous dire concrètement, par exemple, combien de temps ça t'a pris de faire un dossier, donner quelques délais, parce que toi, je crois que tu as été lauréat d'accumuler des aides ces dernières années.
On a gagné 6 projets depuis 2016, donc en 8 ans. Le temps à y passer est extrêmement variable. Un élément qui n'a pas forcément été évoqué, c'est qu'il y a des projets où on répond à un appel à projet et qui ne sont donc il y a un consortium qui est construit, mais le projet n'est pas un succès. Mais paraît 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, un autre appel à projet qui correspondrait assez bien au projet qui avait été construit, qui va donc être adapté et qui va être resoumis. Et donc là, comme c'est une seconde soumission, potentiellement, il y a une maturité qui est plus grande. Et nous, sur un projet sur lequel on est rentré, on a remplacé un partenaire français qui souhaitait plus participer. Et on est arrivé donc avec un dossier qui était déjà très avancé. Nous, on a eu, je dirais, 1 dizaine de jours de travail ou un peu plus. Et le fait est que le projet a été gagné. Donc là, il y a un facteur chance ou talent, mais qui fait, bon, bah, on était là au bon endroit, au bon moment, sur le bon sujet. Et après, sur les gros projets de consortium, le travail énorme qu'il y a à faire, c'est, je dirais, pour l'équipe du chef de file et son équipe, je dirais, rapprochée. Souvent, ces parties-là sont souvent prises par des acteurs publics ou parapublics. J'entends, par exemple, en France, le CEA ou des organismes, ou ça peut être l'APHP, par exemple, si c'est un centre clinique, qui vont prendre la responsabilité du consortium au niveau global. Et les partenaires vont être sollicités pour donner des éléments sur telle ou telle partie. Là où il y a vraiment un travail énorme, c'est effectivement sur les chefs de file. Et donc là, il y a différents projets avec différentes maturités. Sur certains, ça va être plutôt des entreprises, des chefs de file. Sur l'autre, des entités. Et donc, bah, il faut pouvoir être connu de ces chefs de file au niveau français ou au niveau européen pour être invité, je dirais, à participer au projet sur tel ou tel point spécifique.
Donc toi, tu as eu des projets en collaboration avec des laboratoires publics et d'autres entreprises. Est-ce que tu as été aussi dans des projets collaboratifs avec que des entreprises sans des laboratoires publics?
Laboratoire public ou parapublic, par exemple, on avait un projet de type une étude prospective pour l'Europe, mais qui a vocation à être diffusée au niveau aussi des entreprises, sur l'utilisation de l'électronique pour démocratiser un certain nombre de solutions dans le domaine de la santé. Et donc là, on n'avait pas de. C'était surtout des entreprises, mais par exemple, côté français, il y avait le CEA Donc, et à la fois public et une partie
Un
par...
épique.
Voilà. Mais donc, c'est des projets de recherche. Donc, je dirais que globalement, il y a quand même toujours des sociétés, des structures de recherche qui sont impliquées. Et c'est cet équilibre entre les différents pays, les différents types de structures, des grands groupes, des PME, potentiellement des startups. Donc, tout le monde peut y trouver sa place, mais il faut être au bon endroit, au bon moment. Et pour gagner, il faut jouer.
Donc, pour être au bon endroit au bon moment, tes tips, c'est d'aller dans les réunions à Bruxelles. Il y a des contacts qu'on pourrait donner aux personnes, des sites internet,
Il y a
des.
suivant les domaines, il y a des associations, je dirais, professionnelles sur telle ou telle thématique, que ce soit l'électronique, la santé. Il y a souvent des commissions communes aussi entre ces associations. Par exemple, l'usage de l'électronique est également dans le domaine de la santé. Et donc, c'est assez facile de trouver quels sont les. Si on va aller sur les sites d'Europe, on va voir qu'il y a telle réunion à Bruxelles, de telle.
Elles sont publiques, ces réunions.
Oui, la plupart sont publiques. Certaines peuvent nécessiter une adhésion, mais la plupart du temps, on peut accéder assez simplement à ce type de réunion.
Point complémentaire, il y a également le réseau des PCN, des points de contact nationaux, qui ont pour mission, bien entendu, d'accompagner les porteurs de projets, ou en tout cas les entreprises, ou les porteurs globalement qui s'intéressent à un appel à projet donné, et qui sont aussi amenés à organiser des infodés, donc des journées d'information. Il y a effectivement des journées d'information, Jean-Christophe l'a très bien dit, à Bruxelles, mais il peut y avoir aussi des journées d'information au niveau national, on en trouve au ministère de la Recherche, et parfois aussi, on a le réseau des PCN qui se déplace aussi en région pour animer une communauté.
Ben, par rapport à ton point, Eve pose une question qui correspond un peu à ce qu'il existe des structures qui accompagnent à monter des dossiers vraiment pour l'écriture.
Oui, c'est parce qu'en montant un dossier,
Il y a plein
le
de
spectre est
micros.
très large. Donc,
Ouais.
ce que j'ai dit, c'est que le réseau des points de contact nationaux, typiquement, c'est l'information de la sensibilisation. Ce n'est pas l'opération maintenant qu'on oui, j'écris des dossiers. C'est la même chose pour le réseau Entrepreneurship Network, qui est incarné en régional par les chambres de commerce au niveau national, mais qui est cofinancé par la Commission européenne pour l'information et les sensibilisations. Par contre, l'opération maintenant qu'on oui, j'écris dans le dossier, c'est plutôt la sphère privée, hein, c'est plutôt les cabinets conseils qui sont des purs players des dispositifs européens. D'horizon Europe, et même précisément, c'est qu'il peut y avoir des purs players sur le vice accélérateur, des purs players du cluster santé, du pilier 2. Donc en fait, il y a des structures d'accompagnement privé. Bien entendu, ils ne vivent pas des mois d'eau fraîche, donc c'est des gens qu'il faut payer. Et il existe des aides au montage au niveau national.
Le diagnostic de BPI France.
Exactement, mais pas que, c'est-à-dire qu'au niveau régional, on a des aides par exemple en PACA, en Auvergne-Rhône-Alpes, sur des aides au montage, notamment sur le vice accélérateur. Et il y a des aides au niveau national, ça a été dit, par BPI France, par exemple pour le vice accélérateur, mais également sur les projets collaboratifs du pilier 2. Donc, ce qui va venir cofinancer, grosso modo, 50% du coût de l'intervention du cabinet qui est là. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que le cabinet conseil va être là pour. Il peut prendre la plume, mais néanmoins, la matière première, elle provient de vous. C'est vous qui savez ce que vous voulez faire, et le consultant au conseil, le dirigeant dirige. Donc, là où vous voulez aller, c'est à vous de déterminer. Mais bien entendu, dans le vocabulaire, dans les trucs et astuces, c'est bien entendu, c'est très aidant, quoi.
Et d'ailleurs, dans les diagnostics de BPI France, vous pouvez arriver potentiellement avec votre cabinet que vous connaissez, vous demander est-ce que je suis éligible à ce cofinancement, ou alors vous n'en avez pas, vous allez voir BPI France, ils font un petit screening en disant, bon, je pense que vous êtes éligible aux aides européennes, et donc ça vaut le coup d'y aller. Parce que des fois, ça peut être intéressant d'avoir leur retour en disant, non, là, franchement, vu votre stade de développement, etc., c'est pas la peine d'y aller, vous allez perdre votre temps, et c'est pas plus mal plutôt que perdre du temps et de l'argent avec un cabinet. Ils peuvent faire ce premier screening et après ils vont, eux, ils ont une liste de cabinets de conseil agréés, tamponnés BPI France, et ils peuvent vous en donner une liste et cofinancer ça. C'est 5 à 10 000 euros, je crois, le cofinancement.
Et même il y a un certain nombre de cabinets qui font des pré-audits en disant vous leur présentez un peu votre projet et ils vous disent il y a ces financements-là franco-français qui pourraient vous intéresser, mais il y a aussi potentiellement ces types de dispositifs au niveau européen.
Je rebondis là-dessus, par nous, avec ma casquette de PCN Vice Accélérateur, il y a une partie de notre temps, c'est consacré, bien entendu, à discuter avec les porteurs de projets. Et la conclusion peut être très simple en disant le Vice Accélérateur, ce n'est pas fait du tout pour vous, ou ce n'est pas fait pour vous maintenant. Donc il y a une
Ça, c'est
dimension
important
temporelle
de
aussi.
savoir.
Et oui, donc ce n'est pas de dire, nous, notre mission PCN, et c'est pareil, j'ose espérer côté sphère privée, ce n'est pas de pousser des gens forcément à aller à l'Europe, c'est de pousser des gens qui sont prêts au bon moment. Parce qu'après, il peut y avoir de la casse, hein. C'est quand même assez chronophage. Encore une fois, tout dépend si j'ai une stratégie très, très opportuniste. versus stratégie très volontariste. Je dépose un dossier à l'EIS Accélérateur, pour le coup, surtout ces monobénéficiaires, c'est forcément moi qui mets mes tripes dans mon dossier. Je suis accompagné, mais c'est quand même moi, et donc ça veut dire que c'est beaucoup de temps passé. Et donc, qu'on passe beaucoup de temps sur un dossier, autant avoir le maximum de voyants au vert et être au bon moment pour y aller.
Donc, un des conseils, c'est peut-être de contacter son coordinateur PCN.
Son PCN, ouais, tout à fait, ouais. Son point de contact national sur la thématique en question. Donc, le EIS Accélérateur, ben, c'est un PCN qui s'appelle le EIS Accélérateur, ça ne s'invente pas. Par contre, vous avez sur les piliers, le pilier 2 avec les différents clusters, vous avez une équipe de PCN sur chacune des thématiques. Donc, vous avez une équipe au ministère de la Recherche qui est là pour vous accompagner aussi, pour déterminer un peu les sujets, quoi.
Ok. Alors là, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à en poser hein, si vous en avez d'autres.
J'ai une remarque sur l'intérêt aussi sur le fait de postuler à des projets. C'est aussi l'analyse, quelle force à avoir sur ses propres projets.
D'avoir un avis extérieur, ça permet
Alors,
de faire
pas
un...
sur l'avis, sur les questions qui sont posées dans le dossier. Le formalisme, je dirais, du dossier de réponse est quand même très imposé et il oblige à adresser plein de choses. Donc, et c'est je dirais, une description du projet qui est quand même très mûr, puisque ça vient des FP7 d'il y a très longtemps, qui étaient le projet, après Horizon 2020, et maintenant Horizon Europe. Et donc ces questions-là, elles peuvent être déroutantes, mais elles ont un intérêt. Et en tout cas, nous, notre expérience, le fait de soumettre un dossier, ça oblige à se poser quand même des questions. Très importante qu'on n'a pas forcément adressé sur la concurrence, sur la chaîne de valeur, sur un certain nombre de choses qui sont intéressantes en tant que telles pour son projet, que l'on
Ça
gagne de
prévite
prendre
le
la
coup
part.
de postuler à blanc, enfin en interne, de regarder pour se
Voilà.
poser les bonnes questions,
C'est-à-dire rien
quoi.
ça, on ne comprend même pas la question. Ça veut dire que potentiellement, il y a des choses qu'on n'a pas adressées. Donc il y a l'intérêt de gagner, mais il y a aussi l'intérêt d'avoir fait ce travail aussi sur son projet.
Et en sachant que les dossiers européens sont souvent plus complexes que les dossiers français, donc si j'ai fait le plus compliqué, ce dossier pourra quand même me resservir à d'autres aides publiques. Si je bénéficie du crédit d'impôt recherche, j'imagine que le fait de décrire, par exemple, la R&D de son projet, etc., ça va pouvoir être réutilisé. C'est pas juste du one shot.
Voilà, sur l'état de l'art, quoi, une très grande partie des sujets qui sont adressés, on va les retrouver dans tous les dossiers.
Ok. Bon, pas d'autres questions. Ève, une troisième peut-être. Est-ce que tu as d'autres. Tu as bénéficié de plusieurs projets, donc mono, en collaboration aussi.
Tous en
Tous en
collaboration.
collaboration.
On a eu un Marie Curie, donc
Est-ce qu'il y a des limites de collaboration, par exemple au-delà de, je sais pas, 4-5 acteurs, on se dit c'est une machine trop grosse, c'est compliqué. Est-ce que tu as vu des choses où tu dis tu
on a des
peut-être pas à
projets,
faire?
le plus petit sur lequel on est, c'était 6 participants et c'était sur des volumes très limités. C'était quelques centaines de milliers pour l'ensemble, de milliers d'euros pour l'ensemble des participants. Mais sur une partie purement études, papier, recherche.
Et chacun, chaque partenaire a son projet. Est-ce qu'on est dépendant les uns des
Ah,
autres?
oui,
J'attends
c'est
que leur
pas.
projet avance.
Oui, il faut attendre. Il y a une coordination, c'est le chef de file qui fait cette coordination. Et les différentes parties du projet sont souvent liées. Donc il y a une coordination entre les partenaires. Après, là, on a un autre projet qu'on vient de gagner au niveau européen. On est 35 partenaires.
Oui.
Donc, ça fait des conf-calls qui sont animés. Et sur un autre projet, là, on est 18 partenaires. Donc, c'est quand même des gros, gros projets. Les deux sont sur 3 ans. Oui, il y a
Donc
forcément.
là, ça fait un peu peur quand on entend ça, et ça fonctionne quand même bien. Ou...
Il y a un temps de mise en route.
Au début, ouais.
Et puis après, il y a des personnes de bonne volonté aussi dans ces projets-là, parce qu'ils portent quelque
Il y a un intérêt
chose.
commun, de toute
Il y a
façon.
un intérêt commun et donc c'est comme l'auberge espagnole, je trouve ce qu'il y amène. Si on n'amène pas des choses intéressantes et qu'on n'est pas prêt à collaborer, bah, on sortira pas non plus grand-chose à la fin.
Là, vu qu'il y a beaucoup d'acteurs, ça me fait penser à la question de la propriété industrielle. Elle est prédéfinie au début, alors quand vous montez le projet en disant ça sera tel, tel, parce que c'est un sujet de friction, j'imagine.
Il y a des documents, il y a des accords cadres. Et après, ils sont discutés dans la phase de contractualisation entre les différents partenaires sur telle ou telle chose.
N'y a pas un formalisme européen qui dit il faut que ça prenne tel format. C'est à vous, dans le consortium, de faire
Il y a
ce que
des
vous voulez.
templates, quoi, il y a des modèles. Et après, il y a des obligations, par exemple, sur le fait de rendre telle information disponible, si ce n'est pas du secret, mais que ça puisse bénéficier à la communauté de la recherche généralement. Il peut y avoir des contraintes sur la mise à disposition de certaines données, qu'elles puissent être réexploitées par exemple pour d'autres projets par la suite. Donc c'est indiqué dans chaque appel à projet, mais en tout cas, nous, dans notre cas, ça n'a jamais été une limitation pour participer à un projet.
D'accord.
Juste une précision, donc oui, ce qu'a décrit Jean-Christophe, c'est ce qu'on appelle les accords de consortium. Donc le consortium agreement, c'est une obligation, hein. Donc, Bruxelles l'exige. Il y a des modèles, il y a un modèle d'ESCA par exemple, mais c'est un template, il n'est pas imposé par la Commission européenne, je peux le faire modifier à façon. C'est aussi le travail de coordination qui doit être mis en œuvre dans l'accord de consortium. En général, il y a les règles du jeu et les règles de fonctionnement du consortium, et puis effectivement, il y a ce volet de propriété intellectuelle. Et c'est plutôt les grands principes. En fait, ce qui peut être, au moment où on signe l'accord, on sait ce qui va être apporté par chacun. On sait a priori ce que chacun a envie de reprendre, partant. Mais après, il y a des choses qui vont se faire au fil de l'eau dans le projet. Le projet, c'est 36 à 48 mois. L'accord de consortium que j'ai signé, il peut y avoir beaucoup de changements. Il peut y avoir la propriété intellectuelle qu'on n'avait pas vue, la propriété intellectuelle qu'on avait vue, mais en fait, c'est pas brevetable. Voilà, la question c'est...
Et ça peut prendre du retard même des fois, non ?
Bien sûr, c'est partie du jeu, il y a des avant-contrats, il peut y avoir en plus dans le fonctionnement d'un projet européen, il y a des war packages, des paquets de travaux, il y a des war package leaders, il y a des task leaders, donc il y a ce travail de coordination, mais bien entendu on peut imaginer qu'il y ait une tâche pour X raisons, parce qu'on parle bien de R&D, donc il y a quand même des verrous technologiques, ça c'est la réalité, on peut prendre oui. 3 mois dans la vue pour arriver à faire un truc et on n'y arrive pas, et puis il y a peut-être des choses où on peut arriver à un truc où c'est bloqué. Donc il y aura forcément un temps de coordination.
Et la finalité du projet qui évolue, peut-être que vous pouvez changer finalement de technologie pour arriver à la même finalité.
Oui, bah là en général on fait quand même un avenant de contrat. Quand même. Okay. C'est parce qu'on peut changer la techno,
bah, oui,
mais non, il y a quand même un avenant de contrat. Et puis si la techno elle change du tout de tout, il faut quand même que ce soit sur la table pour manipuler cette techno, et c'est pas si simple que ça. Quoi. Donc,
Il y a des interlocuteurs, ce qu'on appelle les project officers côté européen, qui sont les interlocuteurs du chef de et du consortium. Donc c'est et quand il peut y avoir des structures qui deviennent défaillantes en cours de projet, elle peut être sortie,
remplacée éventuellement
par une autre structure ou répartir
package vers les autres
les partenaires. Tâches sur d'autres partenaires.
Donc c'est un peu flexible, c'est pas juste tout ce qui est écrit au début.
Il y a un peu, il y a de la flexibilité pour faire face aux événements. Ouais, le but pour l'Europe et pour tout le monde, c'est que ça marche.
Oui, sur des projets de 3-4 ans, on sait que ça peut bouger, quoi. Alors, j'ai pas d'autres questions, toujours, mais je relance, on sait jamais.
C'était une petite question sur les brevets. Voilà. Il vaut mieux un brevet commun ou des brevets séparés ?
Oula, grande question.
Je dirais que la question ne se pose peut-être pas. Elle est plus sur le contenu de ce qui est breveté. Et dans un brevet vont se retrouver les gens qui sont à l'origine de l'invention. Là, par contre, c'est une obligation de nommer les inventeurs sous peine de faire prendre des risques au brevet. Et donc, c'est plutôt le cas précis qui va dire s'il y a plusieurs déclarants.
Je peux peut-être compléter, parce que est-ce que c'est le brevet unitaire? Quand je vois brevet commun et brevet séparé, est-ce que c'est séparé entre les acteurs ou alors est-ce que c'est séparé entre les pays et...
J'ai compris, c'est pas entre les acteurs.
Ouais, je pense, mais...
C'est plutôt le... Ça dépend des inventeurs. Et un brevet, on peut souvent pas le saucissonner, quoi. Je veux dire, il y a une invention et après, il y a des propriétaires qui, c'est une chose, qui peuvent être séparés. Mais chacun ne va pas pouvoir déposer son brevet potentiellement de son côté.
Tout comme il peut y avoir... Oui, parce que c'est-à-dire qu'ils se retrouvent en conflit au moment de l'étude du brevet, donc ça risque pas de marcher. Et puis dans certains cas, il vaut mieux que ce soit un acteur qui soit suffisamment costaud pour être capable d'assurer les annuités du brevet, s'il y a des questions de contrefaçon, et qu'après il y ait plutôt des libertés d'exploitation.
Des derrière.
Libertés d'exploitation via des licences exclusives ou non, à d'autres membres du consortium. Quoi. Voilà. Ça serait au cas par cas.
Tout est possible. Et on peut avoir dans le consortium... des très gros acteurs qui, eux, sont beaucoup plus intransigeants sur le fait de faire de telle façon ou de telle façon.
Donc, c'est bien de trancher la question peut-être au début du projet, quand c'est possible.
Quand c'est possible, oui. Mais...
Ça n'est pas tout le temps, de ce que je comprends. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie beaucoup, notamment Evry Bou, pour ces 3 questions. Donc, le webinaire sera disponible en replay sur la chaîne Spotify, sur notre site innoverenfrance.fr et l'Académie. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à contacter Jérôme ou moi-même. Enfin, on fera suivre, on essaiera de répondre au mieux à vos questions. et puis rester à l'écoute de nos prochains webinaires, notamment celui de BPI et puis du CEA Leti. Merci beaucoup Jérôme,
merci
beaucoup Jean-Christophe, et à bonne journée.
Bonne journée à tous.
Merci, au revoir.
Vous avez des questions liées à cet enregistrement? Rendez-vous sur le site lacademiemedef.fr.